Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 23 Charivar, 1402 du calendrier iranien, 14 septembre 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Les menaces contre l'Iran ne feront qu'abréger la vie d'Israël, a déclaré le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique. L'Iran exhorte l'Union européenne à ne pas permettre que les positions anti-iraniennes du Parlement européen nuisent aux relations bilatérales. L'ambassadeur saoudien à Téhéran salue l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les relations irano-saoudiennes. Et le Maroc n'a pas accepté l'aide française après le séisme. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié d'interventionniste les récentes remarques anti-iraniennes de certains membres du Parlement européen, exhortant l'Union européenne à ne pas permettre que de telles déclarations nuisent aux relations bilatérales et au cours du dialogue entre les deux parties. Dans un communiqué, Nasser Kanani a déclaré que les remarques de certains membres du Parlement européen concernant les problèmes intérieurs de l'Iran montrent que les politiciens européens agissent sous l'influence des campagnes de désinformation ou, au mieux, de consultations biaisées qui leur sont proposées. Il a surtout cité des allégations non fondées concernant les prisonniers en Iran et les institutions du pays. Ces remarques ont été faites lors d'une réunion organisée pour évaluer la situation en Iran après la mort en 2022 d'une jeune iranienne nommée Mahsa Amini et les troubles qui ont suivi. Kanani a déclaré que les positions anti-iraniennes du Parlement européen au cours de l'année dernière indiquent l'insistance de certains membres du Parlement européen à adopter une position conflictuelle à l'égard du peuple et du gouvernement iranien. L'ambassadeur saoudien à Téhéran salue le nouveau chapitre des relations irano-saoudiennes et affirme que les relations seront fortes dans tous les domaines. Dans une interview accordée à l'agence de presse officielle iranienne IRNA, Abdullah Ben Saoud Al-Anzi s'est dit satisfait de l'ouverture d'un tout nouveau chapitre dans les relations entre Riyad et Téhéran. Les liens seront forts dans tous les domaines, y compris dans les secteurs du commerce, de l'économie et de l'investissement, a-t-il indiqué. En mars dernier, l'Iran et l'Arabie saoudite ont convenu dans le cadre d'un accord négocié par la Chine de rétablir leurs relations diplomatiques rompues en 2016. Le président français Emmanuel Macron a donné un avis ferme quant à la situation autour de l'aide française proposée au Maroc sur fond du séisme tragique qui a emporté la vie à plus de 2000 personnes. Rabat n'a toujours pas accepté le soutien de Paris alors que la brouille diplomatique persiste entre les deux pays. Alors que le Maroc a accepté l'aide humanitaire de quatre pays après le tremblement de terre meurtrier l'ayant frappé, il a refusé celle de la France. Le président Emmanuel Macron a souhaité mettre les points sur les i quant à ce refus marocain. Je souhaiterais que toutes les polémiques qui viennent diviser, qui viennent compliquer les choses dans ce moment qui est déjà si tragique, puissent se taire par respect pour toutes et tous, a-t-il déclaré le 12 septembre. Le président Emmanuel Macron a toutefois réitéré la possibilité d'octroyer de l'aide au Royaume, à savoir 5 millions d'euros pour les ONG présentes dans le pays. Le président chinois Xi Jinping a annoncé à son homologue vénézuélien que son pays allait obtenir le plus haut statut diplomatique. En déplacement en Chine, Nicolas Maduro espère recueillir un soutien en vue de son intégration aux BRICS. Alors que Nicolas Maduro est en visite à Pékin ce 13 septembre, la chaîne chinoise CGTN a rapporté que les relations avec le Venezuela avaient été élevées au plus haut niveau diplomatique, qualifié de tout temps. En déplacement dans l'Empire du Milieu, depuis le 8 septembre, le président vénézuélien compte sur son allié chinois pour le soutenir face à la crise économique que subit Caracas. Sur Twitter, Nicolas Maduro a ainsi déclaré « Restez à l'écoute, les bonnes nouvelles vont pleuvoir pour le peuple vénézuélien ». Le président vénézuélien est allé en Chine dans l'optique de s'assurer du soutien chinois en vue d'entrer dans les BRICS, alors que le groupe vient d'annoncer fin août son élargissement à 6 membres nouveaux, c'est-à-dire l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Nicolas Maduro a d'ailleurs rassuré qu'en cas d'intégration, le groupe des BRICS serait rejoint par un pays doté des plus grandes réserves de pétrole au monde. Le chef d'État vénézuélien a loué les mérites de l'organisation. Les BRICS élargis pourraient être définis comme le grand moteur pour l'accélération de la naissance d'un nouveau monde, un monde de coopération dans lequel le Sud global aurait une voix prépondérante, a-t-il affirmé. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a averti que les menaces israéliennes contre la République islamique d'Iran ne feront qu'abréger la durée de vie du régime israélien. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, s'est prononcé mercredi 13 septembre lors d'une réunion avec un groupe d'experts actifs dans le domaine de cyberespace, trois jours après que le directeur du Mossad, David Barnea, a menacé de s'en prendre en profondeur de l'Iran et au cœur de Téhéran. Les sionistes sont aux prises avec de nombreux problèmes et les signes de leur déclin sont évidents. Ainsi, ils ont eu recours à des discours vides de sens et à des menaces d'assassinat de nos commandants, a-t-il déclaré. Si votre précédente opération d'assassinat a accru votre sécurité, continuez comme ça. Mais vous devez savoir que si vous menacez la sécurité de l'Iran, nous aurons plus d'options et votre vie sera écourtée, a-t-il ajouté, en s'adressant aux responsables israéliens. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a également noté que la République islamique d'Iran a réussi à contrecarrer presque toutes les stratégies destructrices et dangereuses de l'ennemi de ces 45 dernières années, alors que les États-Unis n'ont même pas réussi à soutenir leurs alliés. les guerres en Afghanistan, en Syrie, au Liban et en Irak ont montré que l'option militaire n'est plus une solution viable pour eux et que leur complot visant à installer des gouvernements fantoches ont échoué dans cette région, a-t-il ajouté. Ils ne peuvent même pas apporter un soutien total au régime sioniste et cette incapacité s'est transformée dans une certaine mesure en un manque de volonté, a-t-il déclaré, ajoutant que les Israéliens perdent progressivement l'espoir d'un soutien continu des États-Unis. Après avoir été snobé pendant des mois par le président américain Joe Biden, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est censé le rencontrer en fin de la semaine prochaine en marge de l'Assemblée générale de l'ONU et non pas dans la Maison-Blanche. Washington a souvent exprimé son mécontentement face à plusieurs politiques de Tel Aviv, notamment son projet de loi sur les réformes judiciaires, soutenu par le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, ainsi que la recrudescence des atrocités contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée. Ailleurs dans ses remarques, le général Salami a déclaré que les ennemis ne pouvaient plus intimider l'Iran par une agression militaire et des sanctions, car l'embargo imposé à l'Iran depuis 10 ans a en fait alimenté les progrès du pays en matière de technologie, d'innovation et de gestion sociétale. L'Iran, a-t-il affirmé, a lancé des satellites dans l'espace, construit des centrales électriques, des barrages hydrauliques, des routes et des voies ferrées, et dévoilé de grands projets pétrochimiques malgré les sanctions. Ces faits montrent que l'Iran est une puissance réelle qui ne peut être contrainte à se soumettre à aucune superpuissance. Il a également souligné que les stratégies de l'ennemi visant à isoler l'Iran et à déstabiliser le pays ont toutes échoué.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, à l'occasion du 18e anniversaire du retrait militaire israélien de la bande de Gaza, les différentes factions de la résistance palestinienne ont décidé d'organiser des manœuvres de grande envergure. Alors, cela donc garantit la préparation des combattants de la résistance palestinienne face à toute confrontation contre donc les forces israéliennes dans la bande de Gaza, un endroit extrêmement stratégique. Selon beaucoup d'experts politiques, il est temps qu'Israël se rende compte qu'il n'est plus à la hauteur de menacer la Palestine. Et bien sûr, il est temps de jeter l'éponge. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Les groupes de résistance palestiniens ont lancé des exercices militaires à grande échelle dans la bande de Gaza assiégée au milieu des menaces du cabinet d'extrême droite de Benjamin Netanyahou d'assassiner les dirigeants de haut rang de ces groupes. Les exercices baptisés Al-Rukn, Al-Shadid 4, Plié, puis 104 ont débuté mardi à 7h, hors local, 4h GMT dans divers quartiers de l'enclave côtière et ont impliqué diverses unités palestiniennes. Les combattants palestiniens ont anéanti des cibles désignées en mer en tirant des missiles et des roquettes de fabrication locale au cours de l'exercice qui marque le 18e anniversaire du retrait militaire israélien de la bande de Gaza. Le ministère de l'Intérieur de Gaza a annoncé dans un communiqué que des opérations sur le terrain seraient également menées dans le cadre des exercices et que les forces de sécurité seraient également déployées conjointement. Le ministère a noté que les exercices comprendraient également des assauts contre les positions de l'ennemi hypothétique, en plus de vastes agissements d'unités de résistance, de véhicules blindés, d'ambulances et d'équipes paramédicales. La salle des opérations conjointes des factions de la résistance palestinienne a confirmé dimanche avoir effectué une patrouille de reconnaissance et d'inspection des sites militaires et des points de surveillance le long de la barrière de séparation entre la bande de Gaza et les territoires occupés de 1948. Elle a souligné que la patrouille avait été effectuée pour garantir la préparation des combattants de la résistance palestinienne à affronter toute confrontation militaire avec les forces israéliennes dans la bande de Gaza hautement stratégique.
Eh bien, voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède, depuis Stockholm, donc, et expert des questions internationales. Bonjour, Ahmad Rami.
Merci, bonjour.
Un plaisir de vous recevoir dans l'émission Le Débat. Oui, merci à vous. Un grand bonjour à Bernard Cornu, qui est avec nous depuis Vaucluse, France. Monsieur Cornu, bonjour.
Bonjour, et je suis aujourd'hui à Paris, d'ailleurs.
Ah, d'accord. Bernard Cornu est un expert des questions internationales qui a accepté notre invitation donc depuis Paris. Ma première question va s'adresser à Ahmad Rami, qui est avec nous depuis Stockholm. Alors, les combattants palestiniens, M. Ahmad Rami, sont prêts et ont fait une démonstration de force face à toute confrontation des forces israéliennes dans la bande de Gaza. Que pensez-vous, je vous prie?
Oui, bien sûr, les Palestiniens n'ont d'autres choix, d'autres moyens que la résistance, et parce que les occupants n'ont d'autre langue, notre langage pour s'exprimer que la force, c'est-à-dire le langage de la résistance militaire par la force. Donc, pour qu'ils vous comprennent, pour que les occupants comprennent le langage de la résistance, il faut que ce soit par leur langue. Et c'est ce que la résistance maintenant, bien sûr, se prépare. Parce que, comme j'ai dit, en réalité, les Palestiniens n'ont pas de choix. Ils n'ont pas choisi d'être occupés. Et puisqu'ils sont occupés, il n'y a pas d'autre choix, d'autre moyen que de résister. Alors que les occupants, eux, ils ont beaucoup d'autres moyens pour résoudre le problème. C'est par exemple que la fin de l'occupation, ils retournaient là où ils sont venus, mais les Palestiniens, ils n'ont que leur patrie, la Palestine, alors que les occupants, ils sont venus de tous les pays et ils ont les moyens, ils ont donc le moyen de résoudre le problème par la fin de l'occupation en quittant la Palestine occupée. Et c'est pour cela que les Palestiniens, comme j'ai dit maintenant, n'ont d'autre moyen que de résister et de préparer la résistance. Et ce qu'ils font maintenant, c'est de s'entraîner justement sur la résistance et de préparer ce qui les attend. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, comme j'ai dit, pour eux, ils sont obligés. La résistance, c'est l'occupation qui fait naître la résistance. La résistance, et que la résistance n'est qu'une réponse à l'occupation, qui est l'occupation en Palestine, qui est l'occupation juive sioniste. Voilà.
Bien, merci pour cette introduction. J'aimerais à présent connaître celle de Bernard Cornu. Alors, M. Bernard Cornu, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Ahmad Rami quand il dit qu'il n'y a pas d'autre alternative pour la résistance palestinienne de parler la même langue que celle d'Israël, c'est-à-dire la langue de la force?
Disons, cette préparation militaire des résistants nécessaire face effectivement à l'occupation militaire de l'État israélien, mais ce n'est pas la seule alternative. Il faut en même temps, et ce n'est pas une alternative, mais c'est un complément, il faut en même temps que les autorités élues en 2006 à Gaza soient le plus sérieuses possible dans leurs contacts avec les pays étrangers pour essayer de faire changer la perception que les pays étrangers, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui sont riches en Europe ou aux États-Unis, ils parviennent à avoir une perception très différente de Gaza, de ce qu'ils ont actuellement, où ils voient surtout ce que répète Israël, c'est-à-dire des terroristes, des malfrats, etc., un désordre social, alors qu'en fait, tous les gens qui ont travaillé à Gaza, y compris des Français, un chirurgien que je connais très bien, le professeur Oberlin, disent que la vie à Gaza est très bien organisée, sous la contrainte très forte du blocus illégal qui est imposé par les Israéliens depuis longtemps. Mais aussi, il dit aussi que les autorités élues de Gaza, celles du Hamas, donc, ont des contacts importants, intenses, avec les puissances étrangères, pas faciles, parce que beaucoup ont refusé pour l'instant les contacts, y compris la France. Et chaque fois, des contacts qui ont été tentés ont été sabotés par des manœuvres de personnalités ou de personnes pro-sionistes en France pour empêcher l'ouverture d'un débat public avec les autorités de Gaza. Et donc, cette diplomatie est importante pour que petit à petit, les Occidentaux se rendent compte mieux de la situation et soutiennent Gaza dans son, et aussi les autorités palestiniennes de Ramallah dans leurs efforts pour mettre fin à l'occupation et obtenir l'application de toutes les résolutions du droit international qui concernent cette occupation.
Oui, Bernard Cornu, vous avez donc proposé aux responsables palestiniens de se tourner vers l'Europe, et, bon, vous avez cité la France, donc de changer leur position à l'égard de la Palestine. Mais malheureusement, jusqu'ici, ça n'a pas été le cas à cause de l'influence israélienne dans les pays occidentaux et même aux États-Unis, certainement. Donc, est-ce que vous pensez que dans l'avenir, ils vont changer leur position malgré l'influence israélienne?
Et ça dépend justement des efforts qu'on doit continuer, les autorités de Gaza et celles de Ramallah aussi, pour se coordonner et pour arriver à faire évoluer les positions des Européens. Et je pense qu'il y a déjà quelques pays européens, enfin membres de l'Union européenne, qui ont des contacts effectifs, publics, peut-être discrets, mais publics en tout cas, avec les autorités du Hamas. Et récemment, d'ailleurs, des journalistes importants ont dit que le refus de l'Europe de reconnaître le résultat des élections de 2006 qui ont mis au pouvoir le Hamas était très dommageable pour l'intérêt de la paix dans cette région et de la paix de la cause palestinienne. Donc il faut continuer ces efforts pour que quelques pays européens qui comptent, la Grèce, peut-être après l'Angleterre, les Pays-Bas ou d'autres pays, l'Autriche, puissent faire cet effort de reconnaître les autorités élues à Gaza et aide toutes les parties palestiniennes, comme le font d'ailleurs d'autres pays du Moyen-Orient, à œuvrer ensemble et à mieux définir leur position face à cette occupation illégale et en vue de l'application. Le rôle, par exemple, de la CPI va être important, puisque maintenant la Cour pénale internationale a ouvert une plateforme pour que tous les dossiers collectés juste à présent en Cisjordanie occupée et à Gaza sur les violations du droit international, sur des crimes de guerre des autorités israéliennes, soient documentés et permettent un jour l'ouverture d'un procès en bonne forme à la Cour pénale internationale.
Absolument. Ahmad Rami, est-ce que vous voulez bien réagir face aux propos de Bernard Cornu, je vous prie?
Oui, bien sûr. Il y a, comme j'ai dit, la seule moyen, c'est la résistance. Mais bien sûr, pour faire la résistance, il faut s'organiser, il faut l'organisation, il faut l'unité. Et cette guerre de résistance, ce n'est pas seulement une guerre militaire, mais c'est aussi une guerre d'information, une guerre des médias, une guerre politique, une guerre, disons, médiatique. Donc c'est parce que les occupants sionistes n'occupent pas seulement la Palestine. La Palestine, ils occupent la Palestine militairement, mais ils occupent le monde entier. Maintenant, moi j'habite en Suède, ben, la Suède est occupée médiatiquement, politiquement, pas militairement, mais médiatiquement, est occupée. Et tous les pays, en France aussi, tous les médias sont occupés. la France est occupée politiquement. Donc cette résistance doit être une résistance mondiale. Les États-Unis sont occupés. Tous les pays, en réalité, le monde entier est occupé par l'lobby sioniste. Là où il y a des sionistes, il y a une occupation politique. Et comme j'ai dit, moi-même, par exemple, on m'a condamné à 6 mois de prison parce que j'ai critiqué Israël en Suède. Moi, je fais partie de l'occupation de la résistance politique, même en Suède. Je résiste contre cette occupation politique. Si j'étais en Palestine, ben j'aurais choisi la résistance militaire, médiatique, organisationnelle, etc. Donc la résistance a plusieurs façon de résister, mais il se complète. Il faut surtout l'organisation et la volonté de résister. Voilà.
Bernard Cornu, est-ce que vous pensez que Ahmad Rami exagère quand il dit que le monde médiatique est occupé, tous les pays du monde, presque?
Il y a beaucoup d'influence, c'est vrai, des milieux sionistes par différents moyens dans le contrôle, disons, des opinions publiques ou pour les endormir, pour leur donner des fausses idées. Ça passe une fois en partie par l'argent, puisque de grands médias sont souvent tenus par des personnes richissimes et pro-sionistes. Ça passe par des réseaux d'influence plus discrets dans les pouvoirs politiques. En France, nous avons quelques députés qui sont très notoirement pro-sionistes, très liés à Netanyahou quand il vient à Paris. Voilà, donc il y a des pays qui ont moins d'importance, mais très souvent, on a, dans chaque pays qui peut avoir de l'influence sur les politiques du Moyen-Orient, des tentatives des milieux israéliens d'essayer de prendre de l'influence, de s'approcher des lieux du pouvoir pour ça. Voilà, mais c'est une lutte effectivement multifacette. Il faut que la résistance soit non seulement militaire, mais aussi médiatique, organisationnelle, scientifique, éducationnel, culturel, pour que moi-même j'étais par exemple dans un festival de la Palestine en France, au centre de la France, avec beaucoup de présentations par des professionnels qui ont montré ce qu'ils font dans des conditions difficiles de la Palestine occupée et même à Gaza, et aussi des troupes de danse qui font des spectacles de très grande qualité qui permettent au grand public français ou ailleurs d'avoir une vision beaucoup plus humaine, beaucoup plus juste aussi de la situation de cette occupation en Palestine. Et oui, ceci est important.
Oui, absolument. Ahmad Rami, vous avez parlé que la résistance palestinienne n'a d'autre choix que de donc résister, donc avec le même langage que celui des Israéliens, ça veut dire la langue de la force. Mais est-ce que ces manœuvres, par exemple, qui a été une démonstration de force de grande envergure donc dans le monde entier, est un moyen d'unité, de solidarité donc des combattants palestiniens face à Israël? Mais vous avez dit que la guerre est aussi ailleurs, médiatique, politique, sociale. Est-ce que vous voulez bien développer cette question, je vous prie?
Oui. Vous voyez, par exemple, dans chaque pays, il y a, par exemple, aux États-Unis, il y a l'AIPAC. C'est AIPAC qui a le pouvoir aux États-Unis. Chaque candidat à la présidence aux États-Unis doit d'abord venir présenter, disons, sa docilité et au pouvoir sioniste juif aux États-Unis. C'est la même chose en France, par exemple. Il y a vous savez, le dîner de CRIF, le fameux dîner du CRIF. C'est là où où tous les politiciens veulent être invités, sinon ils n'ont plus de place dans la politique en France. Chaque pays, il y a un lobby sioniste qui organise, c'est pas seulement par coïncidence, qui organise ce pouvoir, cette domination. Et il faut savoir que, par exemple, tous les grands pays, tous les grands journaux, tous les grands médias en France, ou en Suède ou aux États-Unis sont possédés par le pouvoir sioniste, par le lobby sioniste.
Monsieur Amal Rami, Monsieur, excusez-moi de vous interrompre. Je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous regardent aimeraient que vous fassiez part de votre expérience. Vous avez subi donc une peine de 6 mois de prison pour avoir seulement critiqué Israël dans un pays européen qui est connu donc en tant que symbole de la démocratie et de la liberté. Est-ce que vous pouvez nous faire part de cette critique que vous avez faite à l'égard d'Israël
et de Oui, je suis arrivé en Suède en 73 et j'étais parce que j'ai essayé de renverser le pouvoir au Maroc et j'ai été reçu comme un disons comme un idole ici. J'étais reçu dès la première semaine et invité par le Premier ministre. J'étais devenu même membre du parti au pouvoir, le Parti social-démocrate, et j'étais donc très bien reçu en Suède parce que j'ai essayé par la force de renverser le pouvoir au Maroc. Alors quand j'ai essayé de critiquer Israël pas seulement par des mots, et j'ai créé une radio qui s'appelait Radio Islam, et j'étais aussi très bien reçu. Mais dès que dans cette radio, j'ai commencé à critiquer Israël, alors là, j'étais, disons, on m'a mis sur une liste noire sur tous les médias. Je ne peux plus passer par les médias. Et j'étais donc, il y a eu des plaintes contre moi. Aujourd'hui, il y a aussi une plainte en France contre moi, une plainte en Suède, parce que j'ai critiqué Israël. Et donc, j'ai été condamné en Suède à 6 mois de prison, 6 mois ferme de prison en Suède, parce que j'écris. En réalité, comment on m'a condamné pour 18 accusations. La plus grave accusation, c'est que j'ai cité, ce sont des citations, j'ai cité Karl Marx qui a critiqué le sionisme. Et alors cette citation que j'ai diffusée à Radio Islam, je l'ai pris de l'organe du lobby juif en Suède qui s'appelle Jewish Chronicle. Et ils ont publié un dossier sur l'antisémitisme de la gauche. Et ils ont pris comme exemple Karl Marx, qu'ils ont traité d'antisémite car il a critiqué le judaïsme alors que lui-même est juif. Mais moi, quand j'ai diffusé cette citation, on m'a condamné pour l'avoir cité. Et pendant le tribunal, le procureur a dit que oui, vous avez diffusé cette citation de Marx pour critiquer Israël alors que la Jewish Chronicle l'a diffusé pour soutenir Israël. C'est ça la différence, ils m'ont dit.
Absolument. Voilà. Oui, Bernard Cornu, est-ce que vous voulez bien nous dire ce que vous pensez de cette expérience de M. Amal Rami, je vous prie?
Ben disons, c'était courageux d'avoir été opposant au Maroc, hein, où il y a quand même une police très forte. Et donc, je sais que c'est pas facile. Bon, je ne l'ai pas connu à cette période-là, et je peux bien croire ce qu'il a fait, et qu'il a été bien accueilli, effectivement, en Suède à ce moment-là. La question est que il faut, quand on critique l'État israélien, il faut faire très attention à ses mots, aux mots qu'on prononce, pour tenter de respecter toutes les lois qui existent dans les pays où on vit, ou qui protègent le droit d'exception, le droit d'expression, mais la liberté d'expression, mais qui aussi sont très vigilants dès qu'il y a des propos trop généralisateurs ou des propos qui peuvent être racistes. Donc en fait, il faut faire très attention à ceci. Et moi, je suis dans des actions en France aussi qui veillent beaucoup à cela. Et qui ont des militants qui font des choses très pratiques sur le BDS, le boycott des investissements sanctions, en allant dans les supermarchés. Mais ils sont bien conseillés par nos juristes pour éviter de se faire piéger par des actions un petit peu illégales, dans lesquelles après on est coincé pendant plusieurs semaines par des procès. Cela coûte cher et parfois effectivement on peut aller en prison. Donc Voilà, c'est pour ça qu'il faut mieux faire ce travail-là d'opposition dans des associations qui peuvent avoir des conseils juridiques importants. Donc voilà, moi-même, je milite beaucoup dans plusieurs associations. J'ai été même président d'association à certaines périodes. Donc je connais bien tous ces aspects juridiques dans lesquels il faut être très prudent pour manœuvrer et critiquer l'État israélien sur des thèmes très précis.
Absolument. En tout cas, ces exercices, ces manœuvres de grande envergure, donc organisées par les combattants de la résistance palestinienne, a été une démonstration de force extraordinaire. Et Bernard Cornu, expert des questions internationales depuis Vaucluse, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et un grand merci.
Depuis Paris.
Oui, depuis Paris, excusez-moi. Je fais toujours cette erreur, vous pouvez m'excuser. Et un grand merci à Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède, également expert de questions internationales. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 15 à 18 du chapitre 46 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Ahqaf. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans notre précédent programme, nous avons lu les versets du Noble Coran qui nous ont appris que des pauvres, des démunis et des esclaves étaient parmi les premiers qui ont cru à l'appel du messager de Dieu, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Les païens de la Mecque disaient au prophète que si l'islam avait été une bonne religion, les pauvres et les esclaves n'auraient pas devancé d'autres gens à y croire. Ils se détournaient donc de la vérité et ils accusaient le messager de Dieu de mensonge. Pour répondre aux païens qui accusaient de mensonge le messager de Dieu, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, le Coran souligne qu'avant le prophète de l'islam, la Torah avait été révélée par le Seigneur au vénéré Moïse, béni soit-il. La Torah était donc un guide et une miséricorde de la part de Dieu, le Très-Haut. De même, le noble Coran, en langue arabe, a été un guide et une miséricorde de la part du Seigneur. Contrairement aux païens qui niaient la mission du prophète, il y avait des gens qui avaient cru à l'appel du vénéré Muhammad que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Ils disaient que Dieu le Très-Haut était leur seul et unique maître. Ils ont pris le droit chemin du salut éternel et ils n'ont eu peur de rien sur cette voie. À ces gens-là, Dieu le Très-Haut promet la demeure au paradis céleste, où ils vivront éternellement. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord le verset 15 de la Sainte Sourate Al-Ahqaf. Puis nous vous en donnerons la traduction.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
Et nous avons enjoint à l'être humain de la bonté envers son père et sa mère. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et ses drages durant 30 mois. Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit : Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mon père et à ma mère, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu as créée. Et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me repens à toi et je suis du nombre des soumis. L'islam accorde une très grande importance à la famille et aux droits des membres de la famille, les uns par rapport aux autres. De nombreux versets du Saint-Coran portent d'ailleurs sur des sujets liés à la vie familiale. Le noble Coran s'adresse à l'être humain en général, sans aucune distinction entre les croyants et les non-croyants, pour indiquer l'importance du respect envers les parents et tout particulièrement envers la mère. Un homme ou une femme de 40 ans, comme le dit le Saint-Coran, est probablement le père ou la mère de ses propres enfants. Mais là encore, il a ou est là encore des devoirs envers ses propres parents. Ce verset nous apprend que Dieu dit à tous les gens, qu'ils soient croyants ou non, d'être bons et respectueux envers leurs parents. Selon l'islam, le respect et la bonté envers les parents ne sont pas seulement des recommandations religieuses, mais de grands principes humains. Voici maintenant le verset 16 de la sourate Al-Ahqaf.
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
Ce sont ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils œuvrent et passons sur leurs méfaits. Ils seront parmi les gens du paradis, selon la promesse véridique qui leur était faite. Dans la vision coranique, ceux qui respectent leurs parents et leur font de la bonté ont une place privilégiée aux yeux du Seigneur. Dieu les logera dans le paradis. Dieu le Très-Haut leur pardonnera leurs péchés et acceptera leurs œuvres bonnes. Ce verset du noble Coran nous apprend qu'une action est considérée comme une valeur à condition qu'elle soit acceptée par Dieu le Très-Haut. La bonté envers les parents prépare le terrain à ce que les autres bonnes œuvres soient acceptés par le Seigneur. Ceux qui sont respectueux envers leurs parents ouvrent les portes du paradis sur eux. Écoutons enfin les versets 17 et 18 de la sourate 46 du Noble Coran.
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
Quant à celui qui dit à son père et à sa mère, « Fille de vous deux, me promettez-vous qu'on me fera sortir de terre alors que des générations avant moi ont passé ?» Et les deux, implorant le secours de Dieu, lui dirent, « Malheur à toi, crois, car la promesse de Dieu est véridique. » Mais il répond, « Ce ne sont que des contes d'anciens. Ce sont ceux-là qui ont mérité la sentence prescrite en même temps que des communautés déjà passées avant eux, parmi les djinns et les hommes. Ils étaient réellement perdants. » Dans certaines familles, grandissent des enfants incompétents et injustes envers leurs parents, qui sont une source de problèmes et d'inconfort pour leurs parents et les blessent avec un langage grossier. Non seulement ils ne respectent pas les droits des parents, mais ils n'acceptent pas non plus leur éducation religieuse. Ces personnes se moquent de leurs croyances religieuses et considèrent les promesses des prophètes de Dieu comme des mensonges. Ces versets nous apprennent que certains individus s'écartent du droit chemin. Mais le devoir des parents n'est pas de les rejeter et de les maudire, mais de prier pour leurs enfants et de les inviter sur le bon chemin. Les parents sont responsables de l'orientation de leurs enfants et doivent s'efforcer de leur donner une éducation religieuse et spirituelle. Chers auditeurs, ici s'achève la voix de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 46 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Ahqaf. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.